Losers.
Weekend première.
Merci à vous d'avoir choisi la première pour bien démarrer la journée. Peut-être avez-vous célébré Pâques hier. Certains auront commémoré la résurrection de Jésus et d'autres auront simplement profité de l'occasion pour manger un bon gigot d'agneau. Mais dans les deux cas, on constate l'influence de la religion catholique dans nos modes de vie, au-delà même de la pratique religieuse. Et donc, au-delà du gigot de Pâques, comment le catholicisme a-t-il influencé la démographie, la sexualité, l'art, la santé et même la manière de cultiver le vin? Eh bien, c'est le sujet du livre de Jean-Robert Pitte, La planète catholique, qui est paru aux éditions Talendier. Il est notre invité ce matin. Bonjour Jean-Robert Pitte.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste du paysage et de la gastronomie, secrétaire perpétuel à l'Institut de France. Et dans ce livre, vous commencez par nous dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pister, comme vous le faites, l'influence de la religion dans les pratiques des hommes, ça n'a quasiment pas été fait dans le monde catholique.
Oui, c'est très étonnant. J'appartiens à une discipline, la géographie, qui s'est un peu intéressée aux religions, mais surtout les religions éloignées de l'Europe occidentale, par exemple l'islam. Moi, je suis élève d'un maître, Xavier de Planolle, qui a travaillé toute sa vie sur la géographie du monde musulman et qui a montré l'influence de, d'abord, où étaient les musulmans et pourquoi ils sont là plutôt qu'ailleurs. Ça, c'est de la géographie pure. Et puis, quelle est l'influence de la religion sur l'organisation de l'espace, sur les paysages, sur les façons de se comporter, les comportements sociaux, sur les villes, sur les quantités de phénomènes. Mais ça n'avait pas été fait, un peu pour le protestantisme et le judaïsme, mais pas du tout pour le catholicisme, alors qu'il y a des géographes dans tous les pays de tradition catholique, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Mais c'est un sujet un peu tabou. Peut-être en France, en lien avec une vision de la laïcité qui fait que tout phénomène religieux relève de la sphère intérieure et n'a pas à rentrer dans la sphère scientifique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne explication, parce que mes collègues historiens ne se sont pas privés d'étudier l'histoire religieuse du catholicisme et de l'ensemble des religions. Donc il y a une espèce de petit mystère. En tout cas, moi, j'ai enseigné beaucoup de la géographie culturelle. Je tombais souvent sur cette question, donc j'ai voulu y consacrer un livre.
Et un livre qui est absolument passionnant. Alors on y trouve des cartes, hein, comme dans tout le livre de géographie, mais pas que, évidemment. Il y a énormément d'anecdotes aussi, enfin qui sont des anecdotes plus qu'anecdotiques, puisque vraiment on est face à l'histoire. On apprend beaucoup de choses, tout particulièrement d'ailleurs sur les différences entre protestants et catholiques. Et pour donner un exemple très concret sur l'impact que ça peut avoir au quotidien, on va prendre un exemple très très parlant. La religion a influé la taille de nos lits.
Oui, parce que le monde protestant a adopté assez vite les pratiques de limitation des naissances, et évidemment le lit séparé ou la chambre à part fait partie de ces pratiques, alors que dans les pays catholiques, on a au contraire beaucoup encouragé la natalité, aussi bien en Europe que au Canada, par exemple, où il y a encore 50 ans, les prêtres des paroisses, les curés de paroisses s'étonnaient quand une femme n'était pas enceinte quelques mois après avoir sevré son petit dernier. Donc, on a favorisé les lits doubles, y compris étroits. Et l'Espagne, par exemple, est sans doute l'un des pays au monde où les lits doubles sont les plus étroits. Et ça ne tient pas à la pratique religieuse d'aujourd'hui, c'est une vieille tradition qui subsiste, et les couples dorment dans des lits doubles et étroits. En France, c'est en train de changer. Les bobos urbains préfèrent les grands lits king size, mais ça n'a plus aucun rapport, cette fois-ci, avec la religion, ou au contraire, c'est qu'on a complètement oublié.
Vous soulignez aussi qu'entre les catholiques et les protestants, le rapport au respect des règles est extrêmement différent. L'autocontrôle est beaucoup plus important dans les pays protestants. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les protestants n'ont pas le sacrement de pénitence, donc quand ils ont péché, entre guillemets, si toutefois ce mot, il a de moins en moins de sens dans le monde protestant, en particulier calviniste, mais quand on a commis une faute vis-à-vis de Dieu et de soi-même, eh bien, on est sous le regard de Dieu. Tandis que dans le monde catholique, la tradition, c'est aussi en train de se perdre, même chez les pratiquants, c'est d'aller au confessionnal et d'aller confesser ses fautes pour recevoir le sacrement de pénitence et pouvoir accéder à d'autres sacrements, en particulier à l'Eucharistie. Donc c'est à la fois un peu hypocrite, disons, c'est ce que dit le commun des mortels, parce que, bon, on peut pécher, c'est pas grave, est-ce qu'on va aller se confesser ? Mais ça donne aussi une espèce de sécurité que n'a jamais le vrai protestant, qui lui doit faire son examen de conscience et se placer sous le regard de Dieu, en sachant pas très bien ce que Dieu pense de lui. Donc ça crée des différences de mentalité énormes à travers l'Europe et à travers l'Amérique, puisque la division entre une Europe catholique du Sud et une Europe protestante du Nord s'est reproduite sur le continent américain, avec une Amérique du Nord plutôt protestante et une Amérique du Sud plutôt catholique. Et puis avec bien sûr des échanges. Alors, de plus en plus.
Jean-Robert Pitt, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on a entendu justement sur les pays du Nord pendant cette épidémie de coronavirus, sur cette capacité à l'autocontrôle qui a fait que il y a eu peu de règles qui ont été mises en place, de règles de contrôle social dans les pays comme la Suède par exemple, parce qu'on disait les gens respectent d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut faire une lecture religieuse des mesures mises en place pour endiguer le coronavirus ?
Oui, sûrement. Enfin, quand vous dites lecture religieuse, c'est l'héritage des religions. Parce que aujourd'hui, que ce soit dans le monde protestant, le monde catholique, on pratique beaucoup moins les religions. Et même les pratiquants, parfois, ont une foi qui est un peu chancelante, ou en tout cas une doctrine qui les arrange à leur sauce. En revanche, ça reste très, très, très longtemps. Le contrôle social, en particulier, on le voit bien quand on va en Suisse, et en particulier dans la Suisse protestante, reste très, très, très fort. Ou en Scandinavie, ou dans un pays voisin comme la Finlande, où ce contrôle est extrêmement fort. Ce qui a des conséquences. Alors ça vient des traditions religieuses, même si aujourd'hui ça ne correspond plus à une pratique effective. Et il est certain que pour le coronavirus, on n'aurait pas vu ces fêtes débridées qu'on a vues par exemple à Paris, hein, ou dans les villes françaises. Et à Bruxelles aussi, voilà. Et pourtant, la pratique religieuse a beaucoup diminué. Mais ça vient de ça. Et donc la transgression est d'autant plus agréable qu'on sait qu'on pourra s'en sortir par le sacrement de pénitence.
Ce que vous soulignez aussi dans votre livre, c'est qu'on pourrait croire que finalement tout ce contrôle, ça rend les gens moins heureux. Et en fait, non. On voit que dans les pays qui sont de tradition protestante, parce que comme vous le dites, effectivement, on n'est plus religieux, mais en fait, il y a des traditions, du coup, ou des modes de pensée qui se gardent, et c'est tout l'intérêt de votre livre. Les gens sont plus heureux, ou en tout cas le déclarent, dans les pays protestants.
Oui, actuellement, quand on fait des sondages sur la géographie du bonheur, quand on est, bon, c'est pas une chose simple à étudier, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a davantage de bonheur déclaré, en tout cas dans les pays protestants d'Europe du Nord, que dans les pays catholiques d'Europe du Sud.
Comment vous expliquez ça ?
C'est très compliqué. Je pense que les traditions protestantes sur la société, sur l'organisation sociale, sont restées plus fortes et plus inscrites, même si les gens ne vont plus au temple, que dans les pays catholiques où on a l'impression qu'il y a eu, et ça se voit bien dans tous les pays catholiques d'Europe, mais dans d'autres pays aussi, en Amérique du Sud, qu'on a tout envoyé par-dessus les moulins. Et donc on a jeté, pour prendre une autre comparaison, le bébé avec l'eau du bain, et donc à la fois la contrainte liée au sentiment du péché, au respect du catéchisme, au respect des règles, et on n'a pas remplacé par autre chose. Tandis que dans le monde protestant, je crois qu'on a conservé cette espèce de regard sur soi-même et on essaye de se tenir droit. Cela dit, un certain nombre de débordements, je pense à la consommation de la drogue par exemple, se sont beaucoup, beaucoup développés, libéralisés dans les pays protestants. Je pense aux Pays-Bas, par exemple. Donc il y a... Mais tout ça mériterait qu'on ait davantage de temps, hein, mais merci.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je renvoie vraiment nos auditeurs à votre livre « La planète catholique », Jean-Robert Pitt, dans laquelle on trouve d'ailleurs une statistique qui, moi, m'a beaucoup fait rire. Vous dites que l'OCDE mesure chaque année le bonheur des populations de chaque pays. Et en France, la part de personnes se déclarant très heureuses de leur conditions ne passent jamais au-dessus de 15%. Et au Danemark, elle n'est jamais descendue en dessous de 50%. Et donc, bon voilà, pour donner des exemples hein, de statistiques, de faits qu'on trouve dans votre livre et qui donnent à penser. Je vous propose, pour terminer, qu'on parle d'un sujet qui est plutôt synonyme de réjouissance, justement, puisque je sais qu'en tant que géographe, c'est un de vos objets d'études privilégiés, c'est le vin. Est-ce qu'il y a une manière catholique de cultiver ou de consommer le vin ?
Oui, je pense que dans la tradition catholique, le vin, il est fait pour le plaisir, il est fait pour être bu et non pas pour être dégusté à petite lampée avec un